Margot Radio.
Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Vous êtes toujours en direct de la cafétéria de l'Ergue et vous écoutez Ergot Radio. Venez vous asseoir, on va commencer une nouvelle émission, une nouvelle conversation autour du film que la majorité d'entre vous viennent de visionner. J'accueille avec moi ce soir David Evrard.
Bonsoir.
Et des élèves du concours, donc Tom Valkenard, Nicolas Valkenard et Léa Bobois. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous.
Bonsoir. Bonsoir.
Bon David, par quoi voulais-tu commencer ?
Écoute, je peux un peu essayer de reconstituer les manières dont ce film a été créé. C'est bien sûr différentes étapes. Mais disons que ce que je pourrais dire, c'est que c'est vraiment un film qui est comme une sorte de collection, ou plutôt même de réunion d'un ensemble d'images qui ont été collectées auprès des étudiants qui ont participé au cours, qui ne sont pas que des étudiants de l'ERGUE, mais principalement. On a vu une scène qui se passe dans une chapelle qui réunissait différents étudiants de plusieurs écoles en Europe, par exemple. Et nous avons collecté l'ensemble de ce matériel qui a été monté ensuite par Béatrice Delcorde dans une forme narrative qui considère, disons, au premier chef, la construction du lieu, des espaces et des éléments comme étant peut-être l'œuvre elle-même ou le support de la narration lui-même. Du coup, il y a vraiment une espèce de gradation, puisque le film commence ici, dans l'espace où on se trouve, à l'époque où le Master Sculpture occupait l'ensemble du rez-de-chaussée de l'Ergue et que nous avons dû détruire pour laisser place à l'architecture qu'on connaît aujourd'hui. Ce qui est peut-être pas... Enfin bon. Et du coup, la destruction de cet atelier nous apparaissait comme un élément assez fondateur qui nous a emmené à aller travailler en forêt, la deuxième partie du film, et qui faisait un peu une espèce de relais avec l'idée de post-studio, comme ça, l'idée d'artistes qui quittent le studio et qui vont travailler sur le terrain, où là on a fait ce qu'on appelle un film en bois, enfin un espèce de film de genre un peu cheap et en se fabriquant des caméras et des micros en bois, etc., etc. Et le film ensuite se poursuit sur un espèce de gigantesque, enfin gigantesque, c'est pas si gigantesque que ça, mais disons qu'à notre échelle c'était quand même un investissement assez assez conséquent, qui était dans une chapelle transformée en centre d'art à Thouars, où nous sommes restés une dizaine de jours et où les trois derniers jours étaient de trois soirs réalisés un ensemble de performances, conférences, concerts, etc. Vous aurez reconnu l'intervention de Raphaël Pirenne, qui nous avait fait une conférence par Skype, mais aussi, bien sûr, des trucs d'étudiants qui mélangeaient des trucs de curateurs, d'artistes, etc., qui ont participé au projet. Et puis, à la fin, le film se termine sur la réalisation de la cafette dans laquelle nous nous trouvons, comme boucle.
Ouais, c'est une belle boucle. D'ailleurs, c'est très beau, je trouve, de projeter le film dans le lieu où il a en partie été tourné.
En vrai, moi, je crois que c'est une des meilleures projections. En vrai, c'est vraiment une des meilleures projections. Parce qu'à la fois, elle était crade, un peu cheap. On pouvait voir les châssis de l'écran qui apparaissaient par des moments de lumière qui n'étaient pas parfaits, etc. Il y avait le bruit des gens qui discutaient au bar en même temps que le film se projetait et tout ça. Mais je trouve qu'il y avait une certaine... que ça correspondait parfaitement au film. Mmh. Et la première fois qu'on l'a projeté, je crois que c'était à Athènes, en marge de Documenta, où nous sommes allés le faire. C'était dans un espèce de centre d'art, skatepark. Mais du coup, le son était vraiment difficile. Et puis, on l'a projeté dans des endroits où, par exemple, le son et l'image, notamment, je me rappelle une projection à Courtrai, au centre d'art Bouddha, où c'était absolument parfait en termes de projection, etc. Et voilà, c'était juste très très beau. Mais je sais pas, ce soir, il y avait un truc où c'était comme si c'était juste... ça participait de la nervosité du film, avec les machines à boisson derrière, avec la tente de la radio, avec les gens qui parlent et qui observent le film. Et comme c'est un film un peu chaotique et qui espère pouvoir être intégré différentes choses qui peuvent l'abîmer lui-même, je trouve que la projection ce soir correspondait parfaitement.
Ouais, c'est un film, en fait, sur le commun, sur la communauté, sur cet espace, ce lieu commun, entre autres, qui est la cafétéria, qui est un exemple, en fait, dans le lieu commun. Mais... Et donc, c'est assez beau, je trouve, que de rendre vivant ce lieu, que le lieu devienne commun, par la projection de ce film, en fait.
Oui, mais c'était déjà un lieu... en fait, sans vouloir reprendre ce que David a dit, c'était... en fait, à la base, quand on était en 2016, quand moi j'étais en master 1 ici, dans l'atelier de sculpture, on avait... Ah, c'est bon. Ok. En gros, ce qui était intéressant, c'était de commencer un master en sculpture et d'arriver à un cours où on te proposait pas de travailler uniquement pour ta petite pratique, tes petits tableaux et tes trucs comme ça, bien que ce soit quand même vraiment extrêmement important, mais de plutôt savoir comment est-ce que tu pensais la mise en commun des gens avec qui tu travaillais, en fait, des gens qui étaient juste à côté de toi. Et en gros, le film a commencé à être tourné dans ce contexte-là. Dans un contexte où, voilà, on se retrouvait dans cet énorme garage. Déjà, on passait après un ancien collectif d'étudiants de l'ERG, aussi en sculpture, qui avaient construit tout un tas de choses, qui avaient fait tout un tas de choses, qui étaient vraiment très présents dans l'atelier. Et nous, on s'est demandé, OK, voilà, maintenant, comment est-ce que on va fabriquer l'histoire qu'on est en train de vivre ici, disons plutôt à échelle 1. C'est pour ça que tout est plus ou moins né d'une idée d'archive. Quand on organisait des soirées, des performances orchestrées, des dîners, des discussions et tout ça, quand on était à l'ERG, entre élèves, avec des profs qui invitaient absolument tout le monde, hein, pas seulement le master sculpture, on s'est demandé comment est-ce que... On a d'abord commencé simplement par filmer toutes ces choses-là, en faire un genre de rapport sans aucune intention à la base d'en faire un film. On avait cette idée de faire un peu un magazine, si je me souviens bien, un magazine un peu filmé comme ça, avec dans l'idée de projeter quelque chose de collectif à la fin de notre année. Et finalement, c'est un peu là que Missouri est venu jouer son rôle. C'est que face à une quantité de rush assez impressionnante, parce que évidemment tous les étudiants ont tourné avec à peu près tous les appareils imaginables possibles qui peuvent capter une image, c'est-à-dire des téléphones, des caméras HD et le son idem. Eh bien, par exemple, Béatrice, qui a réalisé le film, autour de discussions, après, avec les étudiants, sans les étudiants et tout ça, le film s'est monté un peu comme ça, comme la prise en charge d'une quantité de travail déjà effectuée, en fait. Et là, c'est vrai que c'est assez cool de le revoir ici, dans ce lieu, parce que c'est vraiment l'aboutissement de quelque chose, en fait, qui a démarré ici. Et voilà.
Oui, moi je dirais qu'il y avait un truc qui était très très intriguant dans ce truc-là, mais qui je pense continue un peu à différents niveaux et à différentes échelles et tout ça, c'est que je crois que l'atelier est autant un lieu de recherche qu'un lieu public. Et du coup, il y a cette capacité possible à accueillir un ensemble, à la fois un ensemble de personnes, très simplement, très humainement, mais aussi un ensemble d'intrigues qui peuvent possiblement... contraindre la réalité dans une forme de fiction. C'est pour ça que la dernière séquence, qui est tournée pendant la réalisation du restaurant, on est tous déguisés, maquillés, etc., etc. Et c'était comme on avait mis des fumigènes aussi. Et du coup, il y avait comme réaliser un truc, comme je sais pas, comme si on participait d'un truc plutôt qu'une simple construction, en fait. Et du coup, on était dans des enjeux qui nous dépassaient d'une certaine manière. Peut-être, Tom, tu peux enchérir sur cette chose.
Sur la cafette et tout ça ?
Oui, la fiction.
La fiction de la cafette ? Oui, en gros, c'était super, parce qu'en gros, moi, j'étais venu l'année passée en tant que bachelier, travailler avec les masters et ce genre de choses, mais là, cette année, comme on a fini la cafétéria... et qu'on est arrivé à vraiment l'aboutissement de la cafétéria avec tout ce qui est table, tout ce qui est banc, tout ce qui est même décor, les abat-jours sur les lampes et tout, on arrive vraiment à quelque chose d'hyper vivant. Et donc, c'est pas vraiment une fiction de la cafétéria, enfin ça reste toujours une fiction, je veux dire, mais on voulait vraiment rendre l'endroit vivant et rendre l'endroit hyper agréable pour tout le monde, tout en faisant quelque chose de cool pour nous, puisque c'est nous qui le réalisons.
Autour de choses simples comme manger.
Oui, c'est ça, autour de choses simples comme manger, déjà. C'est déjà important.
En fait, je crois vraiment qu'il y a un des trucs, et c'est peut-être un point de vue un peu presque anarchiste comme ça, ou même carrément anarchiste, de se dire que il est vraiment très important aujourd'hui, là, de s'approprier les manières de constituer notre propre histoire. Donc de ne pas se laisser faire par une histoire qui serait racontée par d'autres, par une forme de progrès qui serait constituée par d'autres, mais que toute forme théorique, poétique, inclusive ou pas, etc., doit être prise en charge par les gens qui fabriquent cette histoire. Et du coup, c'est comme ça que aussi, en parallèle du film, on a réalisé ce livre, Missouri Super School, qui est vraiment un des enjeux presque parallèles comme ça. C'est pas que l'un ne peut pas fonctionner sans l'autre, mais on a essayé de constituer un roman d'expérience, un roman choral qui participe vraiment d'une idée de s'approprier les outils pour raconter sa propre histoire et puis bien sûr la partager comme un partage de compétences, comme un partage de savoir, tout ça, mais tout en n'étant pas naïf sur l'élaboration de ce que suppose cet objet, de ce que suppose cet objet comme aussi un objet à vendre, un objet à voilà, avec tout ce que ça comporte que de aujourd'hui de faire un livre. Et on a beaucoup travaillé ça, vraiment en rapport avec le film qui a été réalisé d'une manière à construire une espèce de fiction sur base d'images qui n'était pas prévue pour à la base, et le livre qui en est un espèce de miroir un peu théorique et poétique et qui mélange à la fois des gens qui participent du cours, mais aussi des gens qui ont peut-être une carrière plus mûre. Voilà, enfin, il y a plein de choses qui se passent, et là c'est Léa qui a réalisé l'ensemble, Léa Beaubois qui a réalisé l'ensemble de la part graphique, avec François Staon, avec bien sûr les avis qui a tenu compte de l'avis de beaucoup beaucoup de gens. Mais voilà, nous avons composé quelque chose également de chorale comme le film.
Bah oui, du coup c'est un peu à ça que je pensais aussi tout à l'heure, c'est que bien que étant arrivé sur la réalisation du film, enfin qu'ayant entendu parler du film beaucoup plus tard, sur les dernières scènes, quand on commençait à construire la cafétéria, quand on réfléchissait sur le livre, c'était vu qu'il a été construit vraiment en parallèle du montage du film, ça me permettait d'entrevoir le film comme si j'avais participé, alors que non, puisqu'on réfléchissait à ces différents chapitres qu'on a déterminés nous-mêmes pour le livre, d'après le film, et en même temps avec des noms de chapitres qui venaient d'affiches de cinéma, de College Movie qu'on avait tiré d'autre part encore, et c'était une manière de s'approprier aussi l'histoire du film qu'on crée nous-mêmes, qu'on séquençait, on va dire, qu'on montait et dont on définissait la trame narrative et temporelle. Et ce livre, c'était, je crois quand même qu'il s'est vraiment construit de manière un peu, je dirais peut-être pas laborieuse, mais c'était très semblable au film, dans le sens où il y a beaucoup de choses qui nous sont arrivées, énormément de matière, de textes et d'images, de plein de natures différentes qui étaient des dessins, des photographies, de peintures, de scans, et qu'il a fallu donner une forme à tout ça, et ça c'était quand même hyper cool de décider que c'était un roman et que il fallait, c'est pas qu'il fallait, mais qu'on voulait donner ces airs de roman et de quelque chose qui était une histoire fluide avec autant de voix. Et c'était trop bien, en fait, d'avoir toute cette matière et de décider un peu d'être le... Enfin oui, je me souviens qu'à un moment, tu avais utilisé cette image, David, du... Je me souviens plus comment on dit. Le chef d'orchestre. Et c'était trop bien pour moi d'être un peu le chef d'orchestre graphique de tout ça. Mais voilà.
Ok, on va faire une petite pause, on va écouter le compte-rendu d'un workshop que le Master Sculpture a fait il y a encore tout récemment dans une grange. En fait, c'est ta grange, Nicolas. Et après, j'aimerais bien enchaîner sur des questions plus liées à la pédagogie, justement. Donc, on va écouter ça. Et à tout.
Attends, là c'est quoi ça?
C'est pour une sécurité, si tu veux.
Ok.
Tu vois, sinon je sais pas parler.
Ah, mais tu vas pas être sur.
Ici.
Ouais. Ah. Ah. Oh.
Presque.
Ah, c'est pas là. Là, c'est vide. C'est ici.
À partir
de là. Là, c'est ici.
Demain, on tourne d'une manière sérieuse. Qu'aujourd'hui, on puisse faire des tests, déjà, qui pourraient peut-être servir aussi. L'idée, c'est que cette gigantesque scène fonctionne comme une espèce d'expo de groupe, plus ou moins, avec ce qu'il y a ici, avec ce que vous pouvez en faire, avec ce que vous pouvez imaginer de ces deux jours passés. Alors, je sais que c'est très court, parce qu'en fait, il faudrait peut-être un mois ou deux, le temps de vraiment s'imprégner encore plus et de vraiment habiter les choses. Donc, on fantasme un peu l'idée... d'habiter les choses au sens fort, quoi. D'habiter au sens de l'âme, au sens de habitus, comme la chose. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de se projeter dans cette manière que l'on pourrait d'avoir incarné cet espace qu'on a créé nous-mêmes et qui est, qui doit être un espèce d'espace vivant, comme une sorte d'expo de groupe éphémère, et dont là où les caméras seront des spectateurs privilégiés. Et puis du coup, se déploie là-devant, c'est devant les caméras, un ensemble de scènes qui mélange des choses de vie et des choses qui sont plus artistiques, plus inventées.
Ok, là on est parti à la cueillette de champignons. On est en train de traverser des rivières.
Il y a trois pattes.
Qu'est-ce que tu vois, Tom? Il y a des traces de sangliers. Et on est en plein milieu du bois d'Andrimont. Et c'est assez magnifique. Il est plus ou moins 9h du mat, je dirais. Et ça fait du bien de se réchauffer un peu en marchant après une nuit assez caillante. Aïe! Ok, on a un cerf juste devant nous. Et on écoute le brame du cerf. Attends, écoutez, il va commencer. Qu'est-ce que tu as en main? Tu peux un peu me décrire ce que tu viens de trouver?
Alors, ce que je viens de trouver,
poulet, ouais.
C'est un champignon marron clair, ouais. Et en dessous il est à moitié vert, verdâtre, jaunâtre.
Tu sais quelle race de champignon c'est?
Pas du tout.
Bon, allez, c'est...
Mais David, c'est ça. A dit que ça se bouffait.
Le truc c'est que ceux-là avec les petites alvéoles comme ça sont plus spongieux, sont moins bons, sont un peu plus gluants. Ce qui est parfait, c'est ceux-là, mais avec des rainures comme ça. Mmh. Des petites lames en dessous.
Ok.
Ils sont plus fermes. C'est...
Ouais, ceux-là sont un peu gluants. Mais ça va.
Ah ouais, il est bien.
Alors la randonnée commence à être
plus en plus profonde dans la forêt. On vient de voir des biches et un faucon. Et là, j'ai l'impression d'être dans la savane africaine. Il n'y a presque plus d'arbres et des hautes herbes et plein de marécages. Ça s'appelle les fagnes. Et là, on est face à une étendue gigantesque. Dans les marécages.
Manger les arbres, il y a vraiment un flotte.
Là, là, je prends l'eau. On a l'impression d'être en Belgique. À la base, on était parti pour une cueillette de champignons. Ça termine en safari généralisé. On dirait qu'il y a une sorte de... d'aérodrome. Juste à notre droite. Un petit planeur, je crois qu'on appelle ça, qui nous passe au-dessus de la tête.
Tu crées de la valeur. Ouais. La valeur. C'est autant en financier que symbolique. Tu crées la morale. Quand tu vends quelque chose, tu crées la morale. Et que tu vends une paire de chaussettes chez H&M ou que tu vends une œuvre d'art à 2 millions de dollars, tu crées de la morale. Tu crées pas tant la valeur financière que ça. On s'en fout On s'en fout. Plus ou moins, on peut en parler, mais en fait, c'est pas ça le plus important. L'argent n'est pas très très important. L'argent n'a pas énormément de valeur. Il y a beaucoup plus... Ceux qui transitent comme valeur à travers l'argent, en termes de morale et de philosophie, est beaucoup plus important que les sensations pécuniaires de désillusion, d'injustice, c'est ça qu'on peut avoir. Ce que ça crée comme morale, c'est 100 fois plus fort. Et tu ne saurais pas vivre sans vendre. Tu ne saurais pas vivre sans vendre une idée, sans vendre de l'affection,
oui,
sans
mais,
de l'amour,
mais,
sans
mais,
vendre
du
de
coup,
l'amitié.
Le commerce, c'est pas
vendre
juste
de vendre. Ah oui. De l'affection, vendre de l'amitié, vendre de la famille, vendre toutes sortes de concepts qui te préexistent bien depuis des millions de générations.
David, tu peux m'expliquer la raison pour laquelle ton t-shirt est sur l'envers ou pas?
Non, je ne savais pas, je te présente.
Ah, ok. C'est une découverte. Un peu comme ce séjour.
Ça va?
Voilà. Tiens bien.
Bonjour à tous.
Alors, tu fais un nœud plat avant.
Béatrice ! Elle est où ?
Eliott, on a fait d'autres soutiens gorge.
Et ils désignent la personne qu'ils vont dévorer cette nuit.
Non mais qui est mort là, la dernière fois ?
Ils se mettent d'accord.
Et vous les sortez tous les soirs comme ça?
Les soirs le matin et on les rote. Les soirs, on les rote le soir. Et pour le moment, on ne rote plus à la porte la nuit. On ne rote plus. Mais...
Et ça va, il n'y en a jamais une qui s'échappe du troupeau ou quoi?
On se fait habituer, mais c'est des animaux.
Ouais, ouais c'est ça.
De temps en temps, une qui s'écarte, il vient de se sauver. Non
et c'est toutes vos vaches?
Non, c'est pas moi, c'est pas mon fils.
C'est à ton fils? Ok. Et vous en faites quoi en fait? C'est pour le lait ou c'est pour
le lait.
Ou pour les revendre ou...
Non, pour le lait. Ouais, ouais.
Ok. Donc on vient d'entendre un compte-rendu de ce fameux workshop à la Grange qui a fait couler beaucoup d'encre, en tout cas beaucoup de langues se délier. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Déjà, c'est quoi cette Grange ? C'est pourquoi un workshop ? Et qu'est-ce que vous y avez fait ?
Alors, la Grange, c'est le nom de l'atelier que j'ai construit en Ardennes à Andrimont-Stoumont. C'est mon atelier un peu perso. C'est une énorme ferme qui se situe pas loin des bois. C'est un endroit que j'ai commencé à investir il y a à peu près un an, je dirais plus ou moins aux environs de l'élection de Donald Trump jusqu'à aujourd'hui, la mort de Johnny. Ça fait deux bons jours pour mourir. Et donc voilà, à part ça, voilà, c'est un endroit où j'invite pas mal de gens à venir faire des choses avec moi. C'est dans une idée plutôt de fabriquer un genre d'environnement, un genre d'alentour qui a à voir avec le monde paysan. Voilà, bon, ça c'est pour la partie un peu perso. Sinon, ça prend aussi son sens dans ce workshop justement qu'on a fait effectuer pendant une semaine, où en fait avec Missouri on a inventé un personnage qui s'appelle le Reader et qui est en fait une armure à proprement parler. C'est vraiment une armure faite de tôle et de tissu et de cire et de bougies et tout ça. Donc quelque chose qu'on porte, un genre de costume. Et autour duquel, en fait, c'est vraiment un motif autour duquel on s'est rassemblés pour pouvoir, encore dans une idée, en même temps que de faire le portrait de cette vie-là, en même temps que faire le portrait un peu à la fois fantasmé de cette vie à la Grange, dans cet alentour assez spécifique, en s'aidant, en fait, de l'école d'art et des moyens qui étaient à notre disposition. Je ne sais pas trop comment dire vraiment.
Bah, disons que le Reader et ce que nous préparons, c'est comme pour le précédent projet, c'est que nous préparons et un film et un livre autour de ça. Un livre qui est un Reader, c'est une compilation de textes. Et nous avons travaillé sur ce projet comme étant quelque chose où cet objet, cette armure qu'a réalisé Nicolas, et comme un espèce d'objet animé de l'intérieur. Donc tout ce que l'on peut comprendre comme forme animée de l'intérieur, et ça peut se rapporter bien sûr à la peinture, à la sculpture, à plein de choses, c'est quelque chose qui suppose sa propre dynamique interne, sa propre vie, etc., était l'élément, comme l'a dit Nicolas, était l'élément un peu moteur du projet. Nous avons réalisé, pendant ce workshop, une séquence particulière de ce projet, qui est le moment où le Reader arrive dans une sorte de village. Et c'est ce village que nous avons constitué ou réalisé pendant une semaine, qui mélangeait des éléments de vie nécessaires à ce workshop, puisque nous étions dehors en permanence. Et donc, nous avons réalisé une cuisine, du feu, etc., etc., mais aussi des éléments qui sont beaucoup plus d'ordre poétique ou simplement des traits graphiques, comme un pont qui ne mène nulle part ou une scène une série de voilà, quelques concerts ou choses ont pu se réaliser, des décors peints, des décors sculptés, etc. Et du coup, tout participait de cette élément constitutif d'une linéarité aussi narrative que nous essayons de penser, c'est-à-dire de comment est-ce qu'on pense à un moment donné l'objet, puisque c'est sur la base d'un cours de sculpture, même si c'est un de sculpture que le nom, comment l'objet à un moment donné suppose un drame et que ce drame soit la vie interne de l'objet, soit son animalité, soit l'anime, en fait, véritablement. Voilà, c'est vraiment à partir de ça qu'on a travaillé.
Ok, super. Bah, j'aurais une question, donc, comme je disais tout à l'heure, par rapport à la pédagogie, parce que ce sont des projets qui, en fait, quand même, dans une certaine mesure, s'inscrivent dans le cadre d'une école, d'un cours, d'une classe. Et bah voilà, enfin, même votre livre s'appelle Super School, donc je pense qu'il y a quand même une forte accentuation sur la pédagogie. Donc ça m'intéressait de savoir comment vous organisez ça en termes vraiment pratiques, de cours, et peut-être en termes de hiérarchie aussi, parce que je sais que beaucoup de vos références viennent de l'anarchisme. Donc il y a quelque chose d'intéressant là dont vous pouvez parler.
C'est assez compliqué de parler de pédagogie. Moi, je connais vraiment pas grand-chose, très honnêtement. Je n'ai pas été à l'école, donc je ne sais pas très très bien tout ce que ce terme suppose. Mais simplement, j'envisage la pédagogie comme un partage de savoir, un partage de compétences, et un moment où la classe comme lieu est un lieu à partager, qui est une forme d'allégorie, et c'est en l'occurrence une allégorie du monde qui s'organise et qui se réalise à travers ce qu'on y fait. Donc à un moment donné, il y a l'individu, l'artiste, puisqu'on est dans une école d'art, qui y travaille bien sûr, mais qui occupe aussi un espace qui est commun. Et du coup, cet espace commun est un espace forcé, enfin, la classe est une communauté forcée, puisque les gens qui s'y rencontrent a priori ne se connaissent pas ou ne choisissent pas d'être ensemble a priori, mais c'est là-dessus qu'on développe un peu un ensemble de choses qui sont un regard sur l'autre, un travail sur comment est-ce que son propre ou ses propres passions, je dirais, ou son propre travail peut à un moment donné se développer sur une base de projets situés dans des environnements particuliers. Donc du coup, moi, mon rôle, je l'envisage vraiment comme presque un rôle qui s'apparenterait à celui d'un producteur, qui est de mettre en place des situations dans lesquelles les gens qui participent de ce cours peuvent faire émerger leur propre dessin, leurs propres envies, etc. À un moment donné, j'imagine que l'on participe de quelque chose et qu'il est très très important de participer de quelque chose. Parce que j'imagine que dans le cours d'une carrière d'artiste, en tout cas comme moi je l'ai vécu, on se met au service d'un projet. Et à un moment donné, on devient au service de son propre projet. Mais c'est-à-dire que c'est un projet qui nous dépasse nous-mêmes. Et du coup, cette chose-là est vraiment quelque chose que j'essaie de travailler avec les gens qui participent au cours, au même niveau que moi, à travers des discussions, etc., et en donnant comme base quelques éléments sur lesquels on peut travailler ensemble. Et ce travail ensemble ne s'imagine pas comme quelque chose où on devrait s'abstraire de sa propre personne, mais au contraire, l'animer véritablement de ses propres passions.
Okay. Et Tom, Léa, vous qui êtes élèves maintenant, et Nicolas qui a été élève, vous en pensez quoi ? La question du collectif, la pédagogie, vous êtes mis en place là ?
Mais je crois qu'effectivement, c'est vraiment important dans le sens... Enfin, pédagogie, c'est vraiment un terme extrêmement large. Après, c'est toujours assez compliqué. Je ne sais pas. Moi, je pense que quand, par exemple, quand on a invité les élèves de Caen et les élèves de Lergue à venir dans la Grange, je crois que c'était vraiment... Ça fait vivre une fiction autant, comme David le dit, d'un moyen de production que d'investissement personnel, en fait, presque intime, comme ça. On n'a pas de... je ne vais pas dire on n'a pas de pognon, mais ce sont des moyens de fabriquer les histoires qu'on a envie de voir, qu'on a envie de raconter. Et ce qui est important, c'est de savoir comment ces histoires sont fabriquées. Et je crois que la pédagogie... Là, elle peut s'entendre comme quelque chose où on se donne presque rendez-vous, en fait, comme ça, sans savoir à quoi on va s'attendre. Et justement, oui, ça pourrait être un genre d'anarchie de dire que, justement, il n'y a plus d'hierarchie, on est tous dans cet endroit hyper proche du bois, complètement isolé du monde, en vrai. C'est une faille du monde, cet endroit. Il est fait sombre pour l'esprit, je veux dire, quelque part. Et comment est-ce qu'on fait société en fait là-dedans simplement, et c'est ça qu'on filme je pense spécialement à travers nos fantasmes de chevalerie, de chevaliers perdus, de brume dans la forêt, de communauté à demi hippie. Je crois que ce qu'on filme spécialement c'est de fabriquer des moments où on fait société ensemble. Je crois que là je crois que le mot pédagogie prend son sens. Tom,
oui, mais dans cette question de pédagogie et de collectivité, en fait, ici, en tant qu'étudiant, comme Léa, et, qui est en Master 2 et qui, moi, suis en Master 1, ce qui est important, en fait, le fait est que nous sommes tous ensemble, on est 12 dans ce cours, on est tous ensemble, on a notre propre pièce, on doit l'installer nous-mêmes, la ranger nous-mêmes, faire des lieux pour lesquels, dans lesquels on peut se parler tous ensemble, dans des lieux dans lesquels on peut travailler un peu seul aussi. Et le fait est qu'en gros, en travaillant tous ensemble sur des projets collectifs comme le bar, la cafétéria, le tournage du film et tout ça, nous donne des opportunités pour nous de prendre des idées, de retirer des choses de ce qu'on travaille ensemble et en même temps d'en donner aussi pendant le travail collectif. Donc tout ce qui est question un peu donc, comme à l'ergue de pratiques artistiques personnelles et tout, en fait c'est la pratique personnelle, on la travaille en collectivité, on la travaille que tu travailles sur ton projet ou que tu travailles sur le projet collectif en soi, tu travailles sur ta pratique personnelle dans un sens. Il n'y a pas vraiment de travail personnel, on va dire, juste à travailler tout seul sur son bureau avec un ordinateur ou quelque chose comme ça. C'est plus vraiment là où on travaille tous ensemble sur des choses, qu'elles soient physiques ou pas, tu vois. On peut parler, souvent on fait énormément de réunions et on parle énormément tous ensemble et on est toujours pratiquement tous ensemble à la table de travail. Et c'est ça qui fait mûrir notre pratique artistique dans le sens d'artiste. C'est le fait de travailler ensemble, surtout. Que ce soit sur tes projets ou sur les projets collectifs.
Je pense que c'est un très beau mot de la fin. Et on va devoir couper parce qu'il y a une suite. Merci à l'équipe Missouri, David Evrard, Nicolas Valcanard, Tom Valcanard, Léa Beaubois, d'être venus passer parler à Egoist Radio. On va enchaîner par une petite pause musicale et un concert qui remplace Céline et Jean-François qui ont dû annuler Butternut au four. Et j'ai un message de Khalid à vous faire passer aussi. L'étage est maintenant fermé, mais les toilettes à côté de l'escalier sont ouvertes. Voilà, merci à l'équipe de Missouri et on enchaîne sur un peu de son.
Merci, au revoir. I'm sorry.
Thank you.